4000 ans d'histoire. Une chronique historique présentée par Elias Acoca-Vigneron tous les lundis de 16h30 à 17h. Aujourd'hui, je vous parle de Mein Kampf et des origines du mal. Chers auditeurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver. Je remercie Marc et Maggie de C'était pas prévu au programme, ainsi que notre partenaire Yes or No, une application de paris en ligne. Et en ce 20 décembre 2021, je vais vous parler du 20 décembre 1924, date à laquelle Adolf Hitler sort de la prison de Landsberg. Il y a passé un an, après avoir tenté une tentative de putsch, donc à Munich, en 1923, il a été condamné le 11 novembre. Et il a profité de son séjour en prison pour écrire lui-même sur une machine à écrire à Mington, ou pour dicter à ses camarades emprisonnés comme lui, Rudolf Höss et Émile Maurice, un livre qui est réellement son manifeste « Mein Kampf »,« Mon combat ». Alors, l'ouvrage était originellement intitulé « 4 ans et demi de lutte contre le mensonge, la stupidité et la couardise », et il est devenu ensuite « Mein Kampf, mon combat, un règlement de compte » sur l'idée de l'éditeur. Le premier volume paraît le 18 juillet 1925 et le second le 11 décembre 1926. Il est dédié à un autre nazi, Dietrich Eckart. Jusqu'en 1929, il n'y a que 23 000 exemplaires qui sont vendus du premier volume. Le premier volume raconte, du point de vue de Hitler, comment il est devenu un nazi et ce qu'il entend par nazi. Et le second volume, 13 000 exemplaires en sont vendus jusqu'en 1929. Et là, il revient sur ce qu'il attend d'un État nazi. En revanche, lorsqu'il prend le pouvoir en 1933, c'est plus de 900 000 exemplaires qui sont écoulés. Et à partir de 1935, Mein Kampf est offert à tous les jeunes couples allemands qui se marient. D'après Jan Karchow, on estime qu'environ 10 millions d'exemplaires en allemand ont été vendus jusqu'en 1945, soit un foyer allemand sur deux qui possédait le livre. Il ne veut pas dire qu'il l'ait forcément lu en entier. À cela, il faut rajouter tous les exemplaires qui étaient possédés par les bibliothèques et largement empruntés. Il y a eu aussi, bien sûr, les traductions en langue étrangère. Le livre a été traduit en 16 langues par une dizaine d'éditeurs, parfois avec des versions expurgées, notamment les versions françaises, car Hitler ne voulait pas que l'on se rende compte qu'il souhaitait se débarrasser de la France, mais parfois avec des versions au contraire non expurgées, comme celle des belles lettres. Aujourd'hui, on estime que c'est environ 80 millions d'exemplaires de Mein Kampf qui ont été vendus. Alors pourquoi Hitler a-t-il publié ce livre? Qu'en attendait-il? Et surtout, que contient ce livre? En fait, Hitler y expose un manifeste de son idéologie, mais il reprend des idées qu'il n'a pas inventées. Il reprend tout un corpus d'idées qu'on pourrait qualifier de Volkisch. Le mouvement Volkisch, il apparaît dans les territoires germaniques à partir de 1848. Il se développe très largement à la fin du 19e siècle. Et c'est dans ce corpus d'idées qu'Hitler va puiser et en faire une forme de synthèse que l'on peut appeler le nazisme. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, l'une des premières caractéristiques de ce corpus d'idées Volkisch, c'est l'idée que les Germains, c'est-à-dire les Allemands ou les Autrichiens, sont les descendants les plus purs des Aryens, c'est-à-dire des Indo-Européens, et qu'ils sont à la base de toute civilisation. L'idée de la théorie d'une invasion indo-européenne, de ces peuples indo-européens, elle apparaît au début, tout début du 19e siècle, sous la plume de l'abbé Dubois, un Français qui a passé 32 ans comme missionnaire à Pondichéry. Et elle est reprise en Allemagne par Friedrich Max Müller, qui a vécu de 1823 à 1900. Friedrich Max Müller est le fils d'un poète romantique, Wilhelm Müller, qui a composé notamment La Belle Meunière ou Voyage d'hiver, qui a mis en musique Franz Schubert. Il a abandonné, ce Friedrich Max Müller, l'étude de la musique pour l'étude du sanskrit et de la mythologie indienne. Il fait sa thèse à l'université de Leipzig, puis il se rend à Berlin, à Paris l'année suivante, au Collège de France, et enfin en Angleterre, où il devient professeur de théologie comparée à Oxford et où il va finir sa vie. Il développe l'idée selon laquelle eh bien, il y aurait un peuple indo-européen qui aurait donné naissance à plusieurs traditions, aussi bien en Europe, chez les Germains, les Grecs, les Romains, qu'en Inde, hein, avec notamment les Védas. Et il oppose ces traditions indo-européennes, notamment aux religions sémitiques. Pour autant, chez Friedrich Max Müller, il n'y a pas encore l'idée de racisme et d'antisémitisme. Cela est néanmoins beaucoup plus affirmé chez Houston Stewart Chamberlain, qui, lui, est de la génération suivante. Il est né en 1855 en Angleterre, mais il a grandi à Versailles. Il est d'une famille d'aristocrates anglais, son père est un amiral, et il devient le gendre de Richard Wagner. Il écrit en 1899 la Genèse du XIXe siècle, dans cet ouvrage, il défend l'idée que toutes les élites dirigeantes d'Europe, mais aussi d'Asie, descendent des Indo-Européens, et que les Allemands sont les représentants les plus purs des Indo-Européens. Alors, lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, il est déchiré, puisqu'il est anglais, mais il est aussi pan-germaniste, il veut faire l'unité de tous les Germains, et il va donc prendre la nationalité allemande en 1916. Et puis, à partir de 1923, eh bien, il adhère au parti nazi et soutient Adolf Hitler, qu'il appelle le grand machiniste. On peut aussi penser à Ernst Haeckel, né en 1834, mort en 1919, un médecin prussien, un philosophe, aussi un zoologue. C'est d'ailleurs un grand voyageur. Il a voyagé dans les îles Canaries, en Norvège, en Suède, en Finlande, en Russie, en Dalmatie, en Mer Rouge, en Syrie, en Turquie, en Grèce, en Algérie, en Corse et même au Sri Lanka. En 1874, il publie une anthropogénie dans laquelle il fonde la théorie de la récapitulation, c'est-à-dire que les embryons revivraient à l'intérieur de l'utérus les stades de l'évolution humaine. Et il est l'un des premiers à proposer une classification des races humaines en s'appuyant notamment sur la théorie de l'évolution de Darwin, bien que Darwin n'ait lui-même jamais été raciste. Alors selon Haeckel, les Noirs sont les plus proches du singe, tandis qu'au sommet, on trouve les Indo-Germains, hein, c'est-à-dire les Allemands, les Anglo-Saxons et les Scandinaves, qui seraient la forme la plus évoluée, la plus aboutie de l'humanité. Il adhère à la Ligue Pan-Germanique, puis à la Société d'hygiène raciale, fondée en 1905 par le médecin Alfred Ploetz. Ces idées de Germains, comme ça, qui seraient à la base de toute humanité, on les retrouve chez Hitler. On les retrouve notamment dans la page 335. Alors je m'appuie sur la dernière édition critique publiée chez Fayard, qui s'intitule « Historiciser le mal ». Donc page 335, regardez, écoutez plutôt ce que Hitler écrit. « Il est vain de commencer à se quereller pour savoir quelle race ou quelles races ont été les vecteurs originels de la culture humaine, et ainsi les véritables fondateurs de ce que nous englobons sous le nom d'humanité. Il est plus simple de se poser cette question à propos du présent, et là encore, la réponse est facile et claire. Ce que nous voyons aujourd'hui devant nous en matière de culture humaine, de résultats de l'art, de la science et de la technique, est presque exclusivement le produit créatif de l'Aryan. Ce fait permet précisément d'en tirer la conclusion pas injustifiée que lui seul a été le fondateur du genre humain, supérieur en soi, et donc le prototype de ce que nous entendons par le mot « homme ». Il est le Prométhée de l'humanité. Du front lumineux, duquel jaillit de tout temps l'étincelle divine du génie, rallumant à chaque fois le feu qui éclairait sous forme de connaissance la nuit des mystères silencieux, et permettait ainsi à l'homme de gravir le chemin jusqu'à devenir le maître des autres créatures de cette terre. Qu'on l'élimine et une profonde obscurité s'abattra sur la terre, peut-être déjà ici quelques millénaires. La culture humaine disparaîtra et le monde se transformera en désert. Alors non seulement Hitler fait des Aryens, et dont les Germains sont les plus dignes représentants, selon lui, et notamment les Allemands, bien sûr, le Prométhée de l'humanité, selon son expression, mais il veut aussi, eh bien, il considère qu'il faut en préserver la pureté. Et écoutez donc page 340. Le mélange des sangs et la baisse du niveau racial qu'il entraîne sont l'unique cause de l'extinction des anciennes cultures, car les hommes ne périssent pas en perdant des guerres, mais par la perte de cette force de résistance qui caractérise uniquement le sang pur. Ce qui n'est pas race dans ce monde est ivraie. Or, tout ce qui se produit dans l'histoire du monde n'est que l'expression de l'instinct de conservation des races, dans le bon ou dans le mauvais sens. Alors, au pôle positif de l'humanité définit Hitler par l'Arien, il oppose son antithèse, le juif, il l'écrit explicitement, page 343, l'antithèse la plus extrême de l'Arien est constituée par le juif. Il le considère comme un parasite. Voici ce qu'il en écrit, page 347. Chez le juif, en revanche, cet état d'esprit, alors il parle de l'idéalisme, n'est absolument pas présent. Il n'a de ce fait jamais été un nomade, mais toujours et seulement un parasite dans le corps d'autres peuples. S'il quitte parfois son espace vital antérieur, cela ne tient pas à son intention, mais c'est la simple logique de l'éviction que lui font subir de temps en temps les peuples hôtes abusés. Sa propagation est un phénomène typique à tous les parasites. Il cherche toujours une nouvelle terre nourricière pour sa race. Cette idée du juif comme une race opposée à celle des Germains, on la retrouve par exemple chez le journaliste autrichien Wilhelm Marr, qui en 1879 écrit « La victoire de la judéité sur la germanité, considérée d'un point de vue non confessionnel », et qui forge le terme d'antisémite pour dire que les juifs ne sont pas seulement une religion, mais avant tout une race, et donc l'antisémitisme, c'est la haine des juifs, mais de la haine des juifs en tant que race. On la retrouve aussi chez un autre penseur volkisch, Paul de Lagarde, qui est né en 1827 et mort en 1891, et qui publie entre 1878 et 1892 une série d'écrits très antisémites appelés « Écrits allemands », et dans lequel il considère que les juifs sont les agents de la division du peuple allemand et qu'il faut les exterminer comme de la vermine, comme un bacille contagieux. Julius Langbein, qui est de la génération suivante, il est né en 1851, il meurt en 1907, lui publie en 1890 « Rembrandt éducateur ». Il y défend l'idée qu'il faut un homme providentiel qui serait à la fois César et artiste. Et pour lui, les Juifs sont incapables de création. Et il va surtout insister sur le fait que les Juifs les plus dangereux, ce sont les Juifs assimilés qui doivent être tous exterminés. La Ligue allemande, la Deutsche Bund, fondée en 1894 d'ailleurs, exclut les Juifs de ses rangs. Pour l'ensemble de ces mouvements volkisch et pour Hitler, les Juifs sont des corrupteurs responsables de tous les maux. Page 366, par exemple, Hitler reprend un vieux poncif, celui du juif comme prédateur sexuel. Le jeune garçon juif, c'est ce qu'écrit Hitler, aux cheveux noirs passe des heures à épier avec une joie satanique sur le visage la jeune fille ingénue qu'il souille avec son sang et ravit ainsi à son peuple. Il utilise tous les moyens pour tenter de corrompre les bases raciales du peuple qu'il s'agit de mettre sous le joug. De la même manière que lui-même corrompt de manière planifiée femmes et jeunes filles, il n'hésite pas non plus à abattre, même à grande échelle, les barrières du sang pour d'autres. C'était, et ce sont les Juifs qui acheminent, le nègre au bord du Rhin, toujours avec la même arrière-pensée et des objectifs clairs, détruire par l'abardissement inéluctable cette race blanche qu'ils haïssent, la faire chuter de sa hauteur culturelle et politique, et s'élever jusqu'à devenir eux-mêmes les maîtres. Alors, vous voyez, ces Juifs prédateurs sexuels, ces Juifs aussi je continue, page 367, qui sont, selon lui, à la base du marxisme, puisqu'il écrit « Et sur le plan politique, il commence par remplacer l'idée de démocratie par celle de dictature du prolétariat. Dans la masse organisée du marxisme, il, le juif, a trouvé l'arme qui l'autorise désormais à renoncer à la démocratie et lui permet à la place de soumettre et de gouverner les peuples de manière dictatoriale et d'un point brutal. » Juif à la fois responsable du marxisme, mais aussi du capitalisme, page 709, il écrit ainsi, « Le judaïsme financier souhaite, contrairement aux intérêts du bien de l'État britannique, non seulement l'anéantissement économique intégral de l'Allemagne, mais aussi sa réduction complète en esclavage politique. » Et donc on retrouve tous ces poncifs antisémites, Volkisch, du juif derrière le marxisme, derrière le capitalisme, du juif faiseur de guerre. Alors ce que vous entendez, c'est le Horst Wessel Lied, le chant de Horst Wessel, qui a été l'hymne des SA à partir de 1930 et qui devient ensuite l'hymne officiel du parti nazi et donc du Troisième Reich. Il était chanté notamment et joué avant chaque concert de musique classique. Nous parlons aujourd'hui de Mein Kampf. Alors j'ai évoqué dans une première partie comment Mein Kampf oppose un pôle positif de l'humanité, l'arien, c'est-à-dire dont sa forme la plus pure est le germain, et le pôle négatif qu'il faut exterminer, le juif. Et donc Hitler reprend dans le corpus Volkisch tout un certain nombre d'idées. Autre idée que reprend Hitler dans Mein Kampf, celle de l'exaltation du passé, notamment du passé médiéval. Il fait souvent référence à la dynastie des Hohenstaufen, qui est abondamment citée chez Julius Langbein. On retrouve aussi dans le nazisme l'idée d'une religiosité païenne. Le christianisme ainsi serait trop imprégné de judaïsme et il faudrait revenir à une religion originelle des Germains. Là encore, l'idée n'est pas nouvelle. On la retrouve par exemple sous la plume de Guido van Nist, qui est né en Autriche en 1848 et qui est mort en 1919 à Berlin, et qui a fondé ce qu'on appelle le votanisme, c'est-à-dire une sorte de revivification des anciennes religions germaines, bien évidemment fantasmées. Avec cette exaltation du passé, il y a bien sûr aussi le refus de la modernité, le refus du libéralisme chez Paul de Lagarde, le refus de la science chez Julius Langbein, que l'on retrouve dans le nazisme. Avec l'idée que le parlementarisme, que les droits de l'homme sont à rejeter, qu'il faut avoir foi plutôt de façon aveugle envers Hitler, c'est-à-dire envers le Führer. Et une image d'un paysan magnifié, une haine de la ville aussi, un attrait pour le végétarisme, le naturisme ou les médecines douces. Et puis dans le dernier chapitre de Mein Kampf, dans le tome 2, l'avant-dernier, chapitre 14, il y a cette idée aussi que les Allemands ont besoin de coloniser d'un espace vital, en quelque sorte, notamment à l'est de l'Europe. Alors là encore, l'idée n'est pas nouvelle. On la retrouve chez, par exemple, sous la plume de Friedrich Ratzel, qui fonde, il est né en 1864, en Prusse, il fonde la société coloniale allemande en 1882, et de 1882 à 1891, il écrit une anthropogéographie dans laquelle il forge le concept d'espace vital. Pour lui, les peuples ont besoin d'un espace et cet espace peut mouvoir en fonction de la vitalité de ces peuples. Chez Paul de Lagarde, alors autant Friedrich Ratzel défend l'idée de coloniser notamment en Afrique, autant les penseurs Volkisch ultérieurs comme Paul de Lagarde défendent l'idée au contraire que l'avenir de l'Allemagne est à l'est de l'Europe, qu'il faut prendre des terres aux Autrichiens et aux Russes. Et Julius Langbein, lui, souhaite un espace allemand qui irait d'Amsterdam jusqu'à Riga. C'est dans cet esprit qu'est fondée en 1891 la Ligue pan-germaniste qui vise à unifier l'ensemble des peuples germains. Alors lui, Hitler va plus loin. Page 743-744, je m'appuie toujours sur la dernière édition critique de Mein Kampf, publiée chez Fayard, « Historiciser le mal ». Hitler écrit « Nous, nationaux-socialistes, tirons ainsi volontairement le trait sur l'orientation de notre période d'avant-guerre en politique extérieure. Nous reprenons là où l'on s'est arrêté il y a 6 siècles, nous stoppons l'éternelle marche des Germains en direction du sud et de l'ouest de l'Europe et tournons le regard vers la terre de l'Est. Nous mettons enfin un terme à la politique coloniale et commerciale d'avant-garde et passons à la politique du sol et de l'avenir. Or, lorsqu'aujourd'hui nous parlons en Europe d'un nouveau sol, nous ne pouvons penser en premier lieu qu'à la Russie et aux États limitrophes qui lui sont soumis. » Alors vous voyez que dès 1925, date à laquelle est publié le deuxième tome de Mein Kampf, les futurs adversaires du Troisième Reich sont prévenus. Hitler veut envahir la Russie. Et on sait que Staline a lu ce chapitre, hein, puisqu'il l'avait dans sa bibliothèque et qu'il l'a annoté. C'est la raison pour laquelle Staline a armé, considérablement armé, mais il a été surpris, si vous voulez, par la rapidité de l'attaque. Il pensait qu'Hitler, lors de la Seconde Guerre mondiale, en finirait d'abord avec les Anglais avant d'attaquer l'URSS. Enfin, autre aspect du nazisme présent dans Mein Kampf, bien sûr, l'eugénisme. L'eugénisme qui est exposé, page 453, je vous lis un extrait. Il parle de l'État Völkisch, doit placer la race au centre de la vie en général. Il doit veiller à la préservation de sa pureté. Il doit proclamer que l'enfant est le bien le plus précieux d'un peuple. Il lui faut faire en sorte que seuls engendrent des enfants ceux qui sont en bonne santé. Qu'il n'y ait qu'une seule honte, celle de mettre tout de même au monde des enfants, en dépit de sa propre maladie ou de ses propres carences, mais qu'il y ait un honneur suprême, celui d'y renoncer. Inversement, doit être considéré comme condamnable le fait de priver la nation d'enfants sains. L'État doit intervenir en l'espèce comme garant d'un avenir millénaire, face auquel les souhaits et l'égoïsme de l'individu apparaissent comme insignifiants et doivent se plier. Alors c'est au nom de cet eugénisme, hein, il faut préserver uniquement les enfants sains, que les nazis vont commencer à mettre à mort les handicapés et les malades mentaux dans le programme T4, en les gazant, puis en les affamant durant la guerre. C'est aussi au nom de ce principe d'une natalité qui doit être encouragée chez les individus sains germains, que l'homosexualité sera réprimée uniquement chez les Allemands, hein, pas chez les autres peuples. Cette idée eugéniste, on la retrouve avant Adolf Hitler, par exemple, sous la plume d'Alfred Ploetz, qui est né en 1860 en Prusse orientale et qui a fait ses études de médecine à Zurich. Dans son ouvrage publié en 1895, « Les fondements d'une hygiène des races », il défend non seulement la nécessité d'une pureté de la race allemande, mais il considère que les progrès de la médecine nuisent à la race en permettant à des individus de survivre alors qu'ils seraient morts sans aide extérieure. Vous avez compris que dans Mein Kampf, on a réellement un manifeste du nazisme et que tout ce qui va advenir par la suite est en quelque sorte annoncé par Hitler bien à l'avance. Cet ouvrage, Mein Kampf, il va aussi servir à Hitler pour s'imposer face aux autres mouvements Völkisch, se faire le champion de l'extrême droite allemande. Il va aussi lui rapporter beaucoup d'argent, c'est ce qui lui permettra notamment de renoncer à son traitement de chancelier en 1933 pour accroître ainsi son prestige. Et vous voyez donc que Mein Kampf est un ouvrage fondamental pour celui qui veut comprendre le nazisme. Alors, chers auditeurs, nous devons rendre l'antenne, mais je vous dis à lundi prochain, de 16h30 à 17h à la radio, où vous pouvez me retrouver aussi sur d'art et d'histoire, avec un S à art et un S à histoire. J'ai un site internet, j'ai une page Facebook, où avec 15 autres guides conférenciers, je propose des conférences et des visites guidées aussi en Île-de-France. À lundi prochain.